Bien, bonsoir à tous et merci d'être venus nombreux malgré la pluie pour la soirée Fruits de mer. Nous allons donc ce soir parler de nourriture aquatique, de ressources aquatiques. Nous avons exploré la façon dont l'homme est devenu un prédateur assez efficace dans le milieu terrestre, avec essentiellement l'exploitation d'ongulés de plus ou moins grande taille depuis, disons, au moins 2 millions d'années de façon très efficace et avant de façon occasionnelle, surtout pour des proies de plus petite taille. Et donc, nous allons nous intéresser aujourd'hui à un aspect très particulier de la prédation, qui est la prédation sur le milieu aquatique. Alors, vous verrez que c'est une prédation qui est évidemment moins spectaculaire que la chasse aux grands mammifères, parce qu'il va être beaucoup question de coquillages, notamment, qui se défendent assez peu. Cette exploitation du milieu marin, du milieu aquatique plutôt, parce que vous verrez qu'il y a le milieu marin et il y a le milieu aquatique d'eau douce, qui sont deux environnements quand même assez différents. Cette exploitation, c'est quelque chose qui est très important pour les populations modernes, pour les populations actuelles. Il y a une grande partie de la population mondiale qui vit près des côtes. Et depuis un moment, donc les ressources que procure la pêche, la collecte d'animaux qui vivent dans les environnements aquatiques, j'ai déjà évoqué les coquillages, mais il y a aussi toute une faune d'oiseaux, par exemple, qui vit aussi près de l'eau, qui a été exploitée par l'homme. Donc c'est une ressource qui est très, très, très importante pour différentes raisons. Et cette attraction pour les environnements côtiers, vous allez le voir, a de nombreuses implications sur les populations humaines et, on le pense, sur leur évolution. Alors, cet intérêt pour le milieu aquatique, évidemment, soulève pas mal de questions. D'abord, ça peut paraître quelque chose d'assez évident, mais il faut quand même le dire. Il y a peu d'espèces terrestres qui se nourrissent dans le milieu aquatique sans être adaptées au milieu aquatique. Évidemment, il y a des tas de mammifères adaptés à la vie marine qui vivent dans les milieux côtiers, qui se nourrissent de poissons, de crustacés, de coquillages. L'homme est assez remarquable en ce sens que, a priori, il n'a pas d'adaptation au milieu aquatique, encore qu'il y a une théorie qui a connu son heure de gloire, qui est celle du singe aquatique, hein, qui, justement, tirant argument de cette attirance, cette appétence de l'homme pour le milieu aquatique, a imaginé que l'origine des hominines se trouvait dans une adaptation de grands singes à des environnements de lacs, par exemple, en Afrique de l'Est. Alors, je dois dire que c'est une théorie qui est très, très, très minoritaire. Et la question qui se pose, une des questions qui se pose à propos de cette adaptation au milieu côtier, au milieu aquatique, c'est celle de son âge, de son origine. Quand, à quel moment dans le passé, les hommes ont réellement commencé à exploiter les ressources aquatiques ? Alors, ce que vous trouverez dans beaucoup de manuels, d'articles de vulgarisation, c'est un schéma qui est assez simple et qui est le schéma d'une émergence quand même très tardive de cette exploitation du milieu aquatique. Le scénario qui est généralement présenté et que vous connaissez déjà en partie, c'est celui d'une longue évolution des hominines avec une dominance du régime végétarien, avec une consommation occasionnelle de viande, et puis avec les représentants du genre Homo, et en particulier avec Homo erectus, à partir de 2 millions d'années, un développement de plus en plus grand de la consommation de viande, de graisse, avec des comportements de charognage, de chasse. Et dans ce paysage-là, eh bien, longtemps, on a reconnu uniquement à notre espèce, Homo sapiens, eh bien, la capacité à prélever de la nourriture dans le milieu aquatique. Or, évidemment, en général, quand on parle de milieu aquatique, on pense aux poissons. Bon, vous verrez que le poisson, c'est quand même une affaire assez tardive. Il y a d'autres ressources aquatiques. Donc, l'idée qui a longtemps prédominé, c'est que c'est notre espèce, et encore ces formes vraiment récentes, qui se sont intéressées, si je peux dire, à la ressource aquatique, avec un contraste assez marqué avec d'autres formes d'hominines récentes, comme l'homme de Néandertal, à qui longtemps on n'a pas reconnu une grande capacité à exploiter ce milieu aquatique. Alors, de fait, quand on regarde la préhistoire récente, quand je dis la préhistoire récente, je parle vraiment de l'Holocène, hein, des derniers 10 000 ans, eh bien, là, on a des populations, en particulier dans le Mésolithique d'Europe, qui sont très dépendantes du milieu aquatique et notamment du milieu marin. Ce que vous voyez à droite de cette diapositive, je ne sais pas si ça vous parle beaucoup, mais c'est ce qu'on appelle un koken mudding. C'est un mot danois qui signifie littéralement « dépotoir de cuisine ». Et c'est en fait un site archéologique qui est composé d'un empilement de coquillages. Alors on connaît des accumulations comme celle-là dans différentes régions du monde, pas seulement dans le Mésolithique de la mer Baltique ou de la mer du Nord, hein, on en connaît un peu partout dans les régions côtières pour des périodes récentes, sont effectivement des accumulations de déchets de nourriture dans lequel on trouve des vestiges archéologiques, dans lequel on trouve aussi souvent des restes humains, des sépultures, des restes d'animaux domestiques quand il y en a, ou de faune de mammifères quand elles ont été chassées. Et je ne résiste pas au plaisir de vous montrer cette photo, cette reconstitution d'une de ces sépultures mésolithiques qui est très célèbre, qui vient d'un îlot près de la presqu'île de Quiberon, qui est l'îlot de Teviac, où on a trouvé, début du XXe siècle, des sépultures de chasseurs, j'allais dire chasseurs-cueilleurs, peut-être faudrait dire chasseurs-pêcheurs, mésolithiques, avec des sépultures très très célèbres, parce que on a des individus qui sont parfois inhumés ensemble avec des dépôts d'objets, notamment des ornements corporels. Ils sont coiffés de ramures de cerf. Et pour ajouter à l'aspect spectaculaire de ces sépultures de Teviac et de Dick, eh bien, un certain nombre de ces individus ont l'air d'être morts de morts assez violentes. Et je ne signale pas ce point-là par hasard, parce que vous verrez qu'à la fin de mon exposé, on reviendra à cet aspect des choses. Alors pourquoi, dans le fond, cet intérêt pour le milieu aquatique, le milieu côtier? Eh bien, d'abord, il faut bien dire que la ressource aquatique présente de grands avantages sur le plan nutritif, hein, et notamment parce que c'est une source d'acides gras insaturés. On en a déjà parlé plusieurs fois. Je vous rappelle que à peu près 60% de notre cerveau est fait d'acides gras, justement, en particulier un acide qu'on appelle DHA et puis un autre acide qu'on appelle arachidonique. Et ces acides gras insaturés, eh bien, on peut les synthétiser enfin, notre, il y a une voie de synthèse, mais quand même qui est assez limitée. Et il vaut mieux se procurer dans l'alimentation une des sources directes de ces acides gras. Et d'ailleurs, on pense que dans l'évolution des hominines, il y a eu des mutations, en particulier d'un gène qu'on appelle FADS2, qui est une enzyme qui est très importante pour la synthèse justement de ce DHA dont je parlais à l'instant. Et on voit qu'il y a au cours de l'évolution récente de l'homme des modifications de cet aspect du génome. Donc c'est quelque chose d'assez critique. Et si on peut se procurer des acides gras insaturés dans l'alimentation, c'est encore mieux. Donc c'est pour ça qu'il faut manger des poissons gras et des fruits de mer. Alors après, sur le plan de l'impact de cette exploitation du milieu marin sur les populations humaines, ce qu'on observe en général, c'est que l'exploitation du milieu côtier, du milieu en particulier marin, entraîne une augmentation de la taille des populations, en tout cas une augmentation de leur densité. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est un milieu qui est très riche, hein. C'est un milieu qui, si on est capable de l'exploiter, procure une grande quantité de calories, de ressources. Et donc, on observe généralement dans les populations, je parle de populations évidemment pré-agriculture, on se rend compte que les chasseurs-cueilleurs qui vivent dans ces régions littorales ou ces régions d'estuaires, eh bien, ont une forte densité. Et cette forte densité s'accompagne d'un certain nombre d'autres traits, en particulier une mobilité qui est moins grande que celle des populations qui vivent dans les milieux continentaux, tout bêtement parce que, dans le fond, quand on exploite un milieu qui a une grande productivité, eh bien on a moins besoin de se déplacer de façon logistique pour trouver différentes sources d'approvisionnement. Cette exploitation du milieu aquatique entraîne ou implique le développement de technologies particulières. Alors évidemment, il y a tout ce qui est lié à la pêche, au filet, etc. Mais même avant ça, on est obligé de développer quand même un minimum de technologies pour exploiter ce milieu aquatique. Et cette sorte de stimulation, si je peux dire, vers la complexité comportementale, elle s'exerce aussi dans la sphère sociale. Et on voit que les sociétés qui vivent dans ces régions littorales sont des sociétés souvent qui sont plus stratifiées, qui ont une plus grande complexité sociale. Par exemple, pour parler de choses très récentes, hein, les Indiens de la côte nord-ouest de l'Amérique, dans la région de Vancouver, par là, sont des gens qui, sans avoir accès à l'agriculture, ont néanmoins développé des sociétés complexes, hiérarchisées, qui évoquent les sociétés complexes urbanisées qu'on trouve dans l'Ancien Monde. Hein. Ce sont des sociétés qui avaient la possibilité d'exploiter un milieu extrêmement riche et donc qui avaient des surplus, si je peux dire, alimentaires, qui pratiquaient l'esclavage, qui pratiquaient des formes d'organisation sociale que, généralement, on ne trouve pas dans des populations de chasseurs-cueilleurs qui vivent de façon beaucoup plus dispersée, diluée. Et pour dire encore un mot de ma sépulture de Teviec, eh bien, on sait aussi que ce sont aussi des populations qui, à cause de leur mobilité plus faible, de leur densité plus forte, de leur territoire plus petit et de ces surplus qui sont générés par l'exploitation du milieu, eh bien, sont plus territoriales, plus enclines aux conflits avec des groupes voisins. Et certains ont vu dans dans cette situation-là, eh bien, un stimulus vers le développement de traits psychologiques purement humains, comme par exemple l'altruisme, certains traits comme ça qui sont, dont on imagine qu'ils peuvent se développer plus facilement dans ce genre d'environnement. Et je reviendrai sur ces questions vraiment à la fin de mon exposé. Alors cette image de, dans le fond, pas de poisson, pas de fruits de mer pendant toute l'évolution des hominines, et puis juste à la fin, avec notre espèce, le développement de ces kyoken modding et de toute cette exploitation du milieu marin ou fluviatile, bien, au cours des 10-20 dernières années, a changé considérablement. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, l'intérêt des hommes, et quand je dis des hommes, je parle des non-homo sapiens, hein, de forme ancienne du genre homo, eh bien, cet intérêt pour cet environnement, c'est quelque chose en fait de très ancien. Et comme souvent, je l'ai souligné dans mes cours, je pense qu'on est revenu un petit peu d'un raisonnement en termes de présence-absence de comportement vers une vision plus complexe des choses où ce qu'on voit, en fait, ce sont des transitions et puis des intensifications de comportements, mais qui, dans le fond, existent depuis beaucoup plus longtemps qu'on ne l'a pensé. Alors, première, et ça a été une grande surprise, première découverte qui a vraiment mis l'accent sur cette exploitation des ressources aquatiques chez des homos très anciens, puisqu'il s'agit d'un site qui se trouve à l'Est-Turkana et qui a presque 2 millions d'années, donc on parle là vraiment des tout premiers Homo erectus, hein, très certainement. C'est un site dont je vous ai déjà parlé, qui est désigné par un acronyme absolument imprononçable, mais bon, qui se trouve à l'est du lac Turkana, donc on va en rester à cette dénomination pour ce soir. Et donc, dans ce site archéologique, on trouve des restes, un petit peu de restes d'animaux terrestres, vous voyez, c'est cette barre verte, mais à côté de ça, les barres rouges que vous voyez, ce sont des animaux qui vivent dans le milieu aquatique et qui ont été exploités par les hommes. Un petit peu de poissons, enfin pas mal, des crocodiles, alors pas des énormes crocodiles, mais des petits crocodiles, et puis aussi des tortues. Et vous voyez que la distribution de ces différents groupes ne correspond pas à un assemblage, je dirais, naturel. C'est vraiment un choix, si je peux dire, de ces Homo erectus d'avoir exploité ces espèces-là à cet endroit-là. Ça a été une découverte majeure et surprenante parce que, dans le fond, jusque-là, on ne s'était jamais vraiment intéressé à ces restes-là. Et il faut dire que c'est vraiment en utilisant des techniques, en particulier de microscopie assez pointues, qu'on a pu visualiser sur ces eaux, en particulier de poissons, de ces gros poissons-chats du genre Clarias, des traces de découpe qui sont très fines, qui ne sont pas faciles à voir et qui sont présentes sur pratiquement tous les restes qu'on trouve dans ce site. Alors, il prouve évidemment l'exploitation de ces animaux par des hommes qui avaient des outils de pierre, mais ça, c'est cette origine anthropique des accumulations, elle transparaît aussi dans d'autres aspects. Par exemple, juste pour vous donner un exemple, un détail, les carapaces de tortues sont brisées d'une façon qui est assez particulière, avec des angles de fracture particuliers qui sont différents de ce que l'on trouve quand des carnivores, les félins, occasionnellement, s'ils attrapent une tortue, les grands fauves africains vont l'ouvrir, vont la dévorer. Donc on a pu étudier tout ça avec beaucoup de détails. Et ce sont deux chercheurs qui sont associés à mon équipe, hein, Brown et Archer, qui ont en particulier travaillé sur, sur ces sites. Alors, ce qui est intéressant dans ce site de l'Est Turkana, où on a exploité des poissons, des tortues, des crocodiles, alors qui est un exemple un petit peu unique pour l'instant, hein, mais la question que pose cette découverte, c'est que dans le fond, il faudrait revisiter avec le bon œil, le bon microscope, de nombreux assemblages qu'on a peut-être éliminé un petit peu rapidement, qu'on n'a pas regardé avec trop d'attention. Et vous savez, en archéologie, très souvent, on ne trouve que ce que l'on cherche. Donc si on se met en tête de trouver quelque chose, on le trouve, et si on pense que ça n'existe pas, on ne le trouve pas. Donc je suis persuadé qu'on trouvera d'autres sites comme celui-là. Alors dans ce site, on trouve donc ces grands poissons chats, et ces poissons sont vraiment des poissons de grande taille. Quand je dis de grande taille, je veux dire qu'ils sont de grande taille par rapport aux poissons chats qu'on trouve dans des assemblages naturels qui ne sont pas anthropiques, de la même époque ou plus récents. Donc là, vous avez la comparaison avec des séries du Pléistocène moyen, une série moderne, une série du Pliocène. Tout ça sont des assemblages naturels. Et vous voyez que la taille des poissons dans ce site de l'Est Turkana, c'est une taille assez importante. Et donc ça traduit un comportement particulier des hommes. Et ce comportement particulier des hommes, on pense que c'est un comportement saisonnier. C'est-à-dire que quand on regarde l'évolution de la taille de ces poissons au cours de l'année, eh bien, on voit qu'elle change. En particulier, bon, bah, évidemment, ils naissent, ils grandissent, ils grossissent. Et puis, il y a aussi ils contiennent aussi un certain nombre de matières grasses. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que quand on regarde le moment de l'année où ces poissons ont le poids maximum, eh bien, ça correspond au moment de l'année où les précipitations sont assez faibles, c'est-à-dire qu'on est en fin de saison sèche. Et c'est probablement la raison pour laquelle, dans cet assemblage d'origine anthropique, on trouve des poissons de plus grande taille, parce que c'est à ce moment-là de l'année, eh bien, que les mares dans lesquelles vivent ces poissons se réduisent énormément à cause de la sécheresse, et donc il est très facile d'aller en attraper un. Hein, il ne faut pas être un grand pêcheur pour aller dans un bourbier comme cela. Et vous voyez tout ce qui ressemble à des espèces de gros vers qui vivent dans la boue, et bien, sont les poissons qui se retrouvent prisonniers de ces mares de boue. Et donc, on peut, à coup de pied, assez facilement sortir un poisson de la mare pour pouvoir le découper et le consommer. Et alors d'une part, ils sont faciles à attraper à cette époque-là de l'année, et puis aussi, c'est un moment de l'année en fin de saison sèche où les ongulés que les hommes de cette époque-là exploitent aussi, se trouvent dans une période maigre, hein, c'est-à-dire c'est vraiment la fin de la saison sèche, donc tous ces grands ongulés n'ont plus beaucoup de gras. Et on sait, parce qu'il y a de nombreuses observations sur des populations récentes, on sait que les chasseurs-cueilleurs évitent de manger des viandes pas trop grasses, hein, enfin trop maigres plutôt, et donc ils recherchent toujours plutôt des viandes où il y a un petit peu de gras. Et donc, c'est le moment idéal de l'année se fournir dans ces mares de boue et avoir ces poissons qui, eux, ne subissent pas des fluctuations de leur masse grasse très conséquentes pendant le cycle saisonnier, puisque bon, bah, ils vivent dans l'eau. Et donc, on peut voir, en fait, cette adaptation, cette consommation de poissons qui produite dans ces mares à la fin de la saison sèche, dans le fond, comme une une forme de diversification des ressources qui répond aux effets négatifs de la saisonnalité. Je vous remontre cette image que je vous ai montrée l'année dernière, je crois, peut-être aussi en début d'année, où on voit le genre d'environnement où vivent différentes espèces d'hominines. Et vous voyez qu'avec les représentants du genre Homo, comme d'ailleurs certains australopithèques, on a des groupes qui vivent dans des environnements très variés, qui couvrent un espace qui va des forêts-galeries jusqu'à des savanes assez sèches. Et cet environnement, en particulier de la savane assez sèche, c'est un environnement qui est éminemment saisonnier avec un cycle de saison sèche, de saison des pluies. Et donc, il faut pouvoir s'y adapter. Et donc, en diversifiant ces ressources de nourriture, eh bien, on peut répondre aux risques que présente la vie dans cet environnement-là, qui est beaucoup plus inégal tout au long de l'année que l'environnement originel de forêt-galerie. Donc ça, ce sont des données isotopiques que vous connaissez bien maintenant et qui sont fondées sur l'analyse de l'isotope 13 du carbone. Cet intérêt des Homo erectus pour le milieu des lacs, des mares, en Afrique de l'Est, c'est quelque chose qui apparaît pas seulement à cause des restes de poissons, de tortues et de crocodiles qu'on a trouvés à l'Est Turkana, mais aussi à quelque chose qui a été révélé assez récemment à travers différentes études dans la même région avec des empreintes de pas qui se trouvent fossilisées justement dans des anciennes berges de ces lacs. Donc il faut imaginer la périphérie de ces lacs ou de ces grands étangs avec des berges qui sont boueuses et qui sont piétinées par les hommes et les animaux qui s'enfoncent, qui laissent des traces de pas. Et à la fin de la saison sèche, quand l'étendue d'eau disparaît complètement ou quand le lac se réduit énormément en taille, eh bien, ces surfaces se dessèchent. Et si on a de la chance, il se produit quelque chose comme, par exemple, une éruption volcanique de cendres volcaniques. Ça n'arrive pas tous les jours, heureusement, ni tous les ans. Eh bien, on peut avoir des empreintes de pas qui se trouvent fossilisées, qu'on va retrouver 1,5 million d'années après. Alors, vous voyez qu'on a fait quand même déjà un petit saut dans le temps, mais c'est simplement qu'on a à cette époque-là, dans cette région de l'Est Turkana, une grande quantité de ces traces de pas qui ont été trouvées dans plusieurs localités. Quand je dis une grande quantité, c'est des centaines, hein, c'est pas juste quelques-unes. Et donc on a pu les étudier très en détail, reconstituer vraiment la morphologie des pieds, la démarche, le type d'individus, reconstituer leur taille, reconstituer les groupes et voir comment ils étaient composés même. Hein. Alors il y a il y a deux points essentiels qui sont à relever dans ces empreintes. Alors d'abord, on ne trouve pas que des empreintes humaines, on trouve des empreintes de toutes sortes d'animaux qui vivent dans ces environnements où il y a ces lacs, même s'ils ne les fréquentent qu'à certains moments. Par exemple, les ongulés doivent venir boire au moins une fois par jour dans ces lacs, et donc on va trouver leurs empreintes aussi sur les berges. Alors, il y a une chose qui est assez remarquable, c'est que quand on compare la quantité de traces de pas d'origine humaine au nombre d'empreintes qui sont laissées par d'autres créatures, d'autres mammifères, eh bien, on observe que c'est ce que vous voyez ici à droite. Hein, donc c'est fouilles où vous voyez en vert représenté le nombre de traces de pas laissées par des hominines par rapport à celles laissées, par exemple, par des bovidés ou des suidés. C'est absolument énorme. C'est plus du tiers des empreintes observées sont laissées par des hommes. Alors que quand on regarde dans le registre fossile, c'est-à-dire dans les sites paléontologiques qui est à côté, combien de spécimens fossiles humains on trouve par rapport aux bovidés ou à d'autres espèces, hein, les hippopotames, les éléphants, etc. Vous voyez que cette barre verte est ridicule. C'est quelques pourcents, et encore quelques pourcents, on est fou de joie quand on a quelques pourcents d'hominines dans un site paléontologique. Hein. Cette disproportion entre le nombre de traces de pas observées et puis le nombre de fossiles qu'on connaît dans les sites paléontologiques à côté, qu'est-ce que ça traduit ? Ben, ça traduit que les hominines, spécifiquement, ont une grande activité autour de ces lacs. Donc, ce n'est pas juste par chance qu'on a quelques empreintes, c'est parce qu'ils y sont très souvent, qu'ils fréquentent systématiquement ces environnements. Et quand on regarde, ici, c'est une étude qui a été faite, de l'orientation de ces traces de pas, par rapport à la géographie qu'on peut reconstituer d'un de ces lacs. Et vous voyez que quand on regarde ce qui se passe avec mes bovidés, hein, mes grosses antilopes, eh bien, la direction des pistes de ces antilopes sont en gros des pistes qui sont perpendiculaires à la ligne de rivage de ce lac. Pourquoi ? Bah, parce que ce sont des animaux qui viennent boire et qui repartent d'ailleurs probablement le plus vite qu'ils peuvent, parce que c'est aussi un endroit où les carnivores les attendent, alors que les traces laissées par des hommes, généralement, sont plutôt des traces qui sont des traces parallèles à la ligne de rivage de ces lacs. Et ce qu'on a pu reconstituer avec ces traces de pas, eh bien, c'est en fait le déplacement de groupes de plusieurs individus, parfois pas mal, qui sont apparemment plus particulièrement des hommes dans le sens des mâles, hein, parce qu'ils ont des traces de pas qui sont beaucoup plus grandes par rapport à la moyenne des traces de pas qu'on trouve généralement dans ces niveaux-là. Et donc, on a cette image de groupe de, on ne peut pas s'empêcher de dire, de chasseurs qui se déplacent le long de ce lac et qui, en gros, patrouillent le long de la rive et laissent leurs traces de pas de façon très abondante, très fréquente. Pourquoi ? Eh bien, parce que, probablement, ils patrouillent à la recherche d'opportunités, de nourriture, peut-être pour chasser des ongulés, peut-être pour récupérer des carcasses d'animaux tués par des carnivores ou chasser les carnivores pour récupérer les carcasses, mais peut-être aussi, justement, pour acquérir des ressources aquatiques du type crocodiles, tortues, voire ces pauvres poissons-chats qui peuvent se trouver prisonniers d'une flaque de boue quelque part. Donc vous voyez que ces découvertes de l'Est africains nous montrent qu'en fait, dès que les hommes ont commencé à exercer une prédation sur les ongulés de façon intense, ben, presque immédiatement, ils s'occupent aussi du milieu aquatique. Alors, ce n'est pas une vraie, j'allais dire, une exploitation très organisée, mais en tout cas, c'est une exploitation opportuniste et peut-être saisonnière de ces environnements, avec en arrière-fond l'idée que c'est justement l'époque où on commence à voir la taille du cerveau augmenter de façon très significative par rapport à ce qui existait chez les australopithèques et que, bah justement, cette ressource aquatique devient extrêmement, sinon indispensable, mais du moins importante pour ces populations. Alors, je voudrais vous parler maintenant d'une autre découverte très récente, qui a été faite et qui concerne aussi les Homo erectus, mais des Homo erectus plus récents. Et je vais vous emmener assez loin de l'Afrique de l'Est, je vais vous emmener en Indonésie. Vous vous souvenez certainement que le terme d'Homo erectus a été, en tout cas le terme d'erectus, hein, de l'espèce erectus, pas Homo erectus, mais Pithecanthropus erectus, a été créé par un médecin anatomiste néerlandais qui s'appelait Eugène Dubois et qui était passionné par les questions d'évolution, par les questions de relation de l'homme avec les grands singes en termes de phylogénie, qui était un grand admirateur d'Eckel, ce biologiste allemand de la fin du 19e siècle. Et donc Eugène Dubois, qui avait en poche un diplôme de médecin, s'est fait engager dans l'armée coloniale néerlandaise pour être envoyé dans les Indes néerlandaises, hein, c'est-à-dire en Indonésie. Il est parti là-bas avec sa femme. Bon, je ne sais pas si elle avait très envie d'aller chercher des Homo erectus, mais en tout cas, il a passé quand même pas mal de temps à Sumatra d'abord, puis après à Java. Et à Java, il a fini par développer des fouilles le long de la rivière Solo dans un site qu'on appelle Trinil, qui est là dans le centre de l'île de Java. Alors il avait quand même de l'aide parce qu'il avait un groupe de bagnards qui étaient condamnés aux travaux forcés. Et donc, on lui avait donné ce groupe de bagnards et donc lui, il les utilisait pour chercher des fossiles. Et donc, les bagnards ont été assez efficaces pour creuser les rives de cette rivière. Et donc, c'est au cours de ces fouilles que Dubois a trouvé une dent, une calotte crânienne, et puis enfin un fémur, et puis d'ailleurs d'autres fémurs ensuite. Et c'est sur la description de ce matériel qu'il a créé le terme de Pithecanthropus erectus, qui va plus tard devenir Homo erectus quand on va inclure dans l'hypodigme d'erectus d'autres fossiles chinois en particulier. Alors Dubois a décrit ses fossiles, les a publiés. Il est rentré aux Pays-Bas, je pense, attendant d'être reçu avec beaucoup d'admiration et d'estime. Et en fait, de gloire, ce qu'il a trouvé quand il est rentré en Europe, c'est quand même beaucoup d'opposition, beaucoup d'hostilité. Il n'y avait pas grand monde qui croyait que son Pithecanthropus erectus était vraiment un homme. Et il a eu une fin de vie assez triste d'une certaine façon, parce qu'il a même fini par enfouir tous ses fossiles dans une malle et ne plus laisser personne les voir, parce qu'il en avait un peu assez de se faire contredire. Bon, je pense qu'il avait une personnalité un petit peu spéciale, Dubois aussi. Hein. Et alors, il n'a pas ramené aux Pays-Bas que ses restes de pithécanthropes, il a ramené aussi tout le produit de ses fouilles, et le produit de ses fouilles se trouve aujourd'hui dans un musée néerlandais qui se trouve à Leiden et qui s'appelle Naturalis, qui a été refait complètement. Je vous conseille, si vous allez aux Pays-Bas et que vous avez une chance d'aller voir ce musée, c'est un musée qui est assez formidable. Je ne sais pas s'ils ont réouvert le musée maintenant avec sa nouvelle présentation. Moi, je l'ai vu avant, puis j'ai eu l'occasion de le voir pendant les travaux. C'est un énorme musée, c'est magnifique. Et donc, dans ce musée, il y a des collections qui viennent de sites archéologiques, et ces collections n'ont pas toujours été étudiées, décrites par les gens qui les ont exhumées. Hein. Donc, on a des caisses, des boîtes, et parfois, il est intéressant d'aller voir ce qu'il y a dans les boîtes de gens qui ont travaillé il y a 50 ans, 100 ans ou plus. Et donc, c'est ce qu'ont fait certains de mes collègues néerlandais. Et donc, dans les collections de Dubois, il y a beaucoup d'os d'éléphants, de crânes de buffles, de choses comme ça. Mais il y a aussi des coquillages qui sont des coquillages d'une espèce de moule d'eau douce, du genre pseudodon, et c'est la mélibranche quelqu'un a remarqué qu'ils étaient assez curieux parce que la plupart d'entre eux avaient une perforation à un endroit très particulier de la coquille. Et cette perforation paraissait être une perforation qui était une perforation volontaire. Alors, on a beaucoup étudié cette série. De mes collègues, qui s'appelle Jordens, qui travaille donc à Leiden. Et c'est une spécialiste aussi de datation. Donc, elle a profité pour faire des analyses sur le matériel qui vient de la collection de Trinil. Il y a aussi un projet de terrain actuellement qui reprend les fouilles de Dubois. Alors, d'abord, on a redaté le site qu'on croyait être un peu plus ancien que ça. On croyait que c'était plutôt Trinil autour de 700 000. On est plutôt autour de 500 000, donc sont, disons, des Homo erectus assez tardifs. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ces coquilles qui apparemment ont été percées par des Homo erectus il y a 500 000 ans ? Eh bien, ce qui se passe avec, eh bien, c'est la chose suivante. Alors, cette petite vidéo, c'est une vidéo qui m'a été donnée par mon amie Hélène Coquenot, qui est anthropologue à Bordeaux et qui, à la demande des auteurs de cet article, a scanographié des coquillages vivants, avec les parties molles à l'intérieur, et qui m'a donné cette petite vidéo qui montre ce qui se passe quand on perfore ces coquilles à cet endroit-là. Vous voyez qu'à l'intérieur, il se trouve un muscle qui ferme ces lamellibranches, et quand on introduit un poinçon à cet endroit-là, eh bien, la coquille s'ouvre. Et manifestement, nos Homo erectus d'il y a 500 000 ans avaient compris comment procéder. Et ce qu'on trouve à Trinil, à côté de ces lamellibranches d'eau douce, hein, eh bien, on trouve des dents de requins, en particulier de requins taureaux, enfin de plusieurs types de dents de requins. Et certaines de ces dents portent des dommages ou des types d'usures qui montrent que ce sont des dents de requins qui ont servi à percer les coquilles de la mélibranche. Donc les gens qui sont évidemment tout de suite empressés de faire l'expérience pour voir si ça marchait, et donc ça marche très bien. Donc voilà, avec une dent de requin, si on sait où faire le trou, eh bien, on peut ouvrir très facilement ces lamellibranches. Bon, les Homo erectus ne pêchaient pas le requin. Hein. Je pense qu'ils trouvaient les dents de requin détachées toutes seules du requin sur une plage. Mais ils ont utilisé ces outils naturels pour exploiter ces lamellibranches. Donc ça, c'est quand même aussi assez... c'était assez spectaculaire parce que finalement, on n'avait pas idée que des formes aussi anciennes avaient exploité ces coquillages. C'est l'exploitation la plus ancienne qu'on connaisse de mollusques. Et alors, évidemment, cette histoire-là a eu un très, très grand écho médiatique. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on s'est rendu compte que sur une de ces coquilles de la mélibranche, eh bien, il y avait, je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais il y avait un zigzag gravé, peut-être avec une dent de requin ou autre chose, mais qui était manifestement quelque chose d'intentionnel qui avait été fait à la surface de ce coquillage. Alors, certains y ont vu la manifestation d'une forme de symbolisme. Hein. Je pense que c'est peut-être poussé un peu loin l'interprétation de ce trait, parce qu'après tout, ça peut être un jeu. Hein. C'est sûrement pas un accident, mais c'est quelque chose qui a été fait. C'est assez difficile à interpréter, mais aujourd'hui, c'est le... Alors, non seulement ce site de Trinil, c'est l'endroit où on a trouvé pour la première fois un Homo erectus, c'est l'endroit où on connaît maintenant les plus anciens mollusques exploités par l'homme à des fins manifestement alimentaires, et c'est aussi l'endroit où on connaît la gravure, entre guillemets, la plus ancienne qu'on connaisse, Pour ce qui est de l'interprétation, ça, je pense que on peut faire confiance à l'imagination des uns et des autres pour trouver la réponse à ce signe assez énigmatique à la surface lamellibranche. On va faire maintenant encore un autre bond dans le temps assez important, puisqu'on va s'intéresser aux hommes de Néandertal. Donc, les hommes de Néandertal, je vous rappelle que c'est une lignée qu'on connaît dans l'ouest de l'Eurasie et qui est dont l'âge, la date de séparation avec notre espèce, Homo sapiens, est probablement un petit peu au-delà de 600 000. Donc, on enchaîne, si je peux dire, à partir d'Homo erectus, et on va se déplacer maintenant dans l'ouest de l'Eurasie. Dans l'ouest de l'Eurasie, évidemment, c'est le berceau de la préhistoire, de la paléoanthropologie, donc c'est un endroit où on a énormément de sites, parce que ça fait un siècle et demi, et même un peu plus, qu'on les cherche et qu'on les trouve et qu'on les fouille. Et donc, dans ces sites du paléolithique moyen ou de la fin du paléolithique inférieur qui sont associés à ces hommes de Néandertal, on s'est constamment demandé s'il y avait chez eux un signe d'adaptation, d'exploitation du milieu aquatique. Alors, vous vous souvenez, au début de mon exposé, je vous ai dit le consensus, très longtemps, ça a été que la réponse à cette question, c'était non. Il n'y a pas d'utilisation, d'exploitation du milieu aquatique, et en particulier du milieu côtier marin par les hommes de Néandertal. Alors là encore, c'est un point de vue qui a été fortement modifié depuis au moins une dizaine d'années à cause de découvertes nouvelles. Mais malgré le fait qu'il y a énormément de sites paléolithiques moyens en Europe, je voudrais quand même souligner un point, c'est que, en fait, les lignes de côte où on serait susceptible de trouver des sites du paléolithique moyen avec des traces d'exploitation du milieu marin, une bonne partie de ces côtes et de ces sites sont aujourd'hui submergés. Pourquoi ? Parce que au moment des périodes glaciaires, on a un retrait très important des océans, de la mer Méditerranée aussi, avec une baisse des niveaux marins qui va au-delà de 120 mètres, donc c'est très important. Ce retrait, il est très marqué sur le plateau continental atlantique. Vous voyez, la Normandie est à des centaines de kilomètres de la mer au moment d'un maximum glaciaire. Mais même en Méditerranée, vous voyez que toute la région du Languedoc, par exemple, le golfe du Lion est émergé. La mer Adriatique, c'est pire, si je peux dire. Pratiquement, elle est à moitié émergée aussi. Donc voilà, tout ça pour dire que pendant les périodes froides, il y a de nombreux sites qui ont été probablement occupés par les hommes et qui sont aujourd'hui sous l'eau. Et malheureusement, on n'a pas vraiment de moyens faciles d'aller les étudier, d'aller les fouiller. Et du coup, donc, on a probablement une documentation qui est assez biaisée. C'est-à-dire que c'est seulement dans les régions, vous voyez par exemple ici dans le sud de l'Espagne, ou dans certaines zones en Italie ou en Grèce, où là, on a une côte qui est extrêmement abrupte dans certaines régions, où finalement, ces fluctuations du niveau marin n'ont pas éloigné énormément la ligne de côte de la ligne de côte actuelle. Alors après, il faut aussi souligner le fait que, évidemment, pendant la période durant laquelle les hommes de Néandertal ont évolué, le climat n'a pas toujours été un climat glaciaire. Mais enfin, disons que 95% du temps, au cours du dernier demi-million d'années, il a fait plus froid que maintenant, et donc potentiellement, on a des lignes de côte qui sont submergées aujourd'hui. Peut-être il faut souligner aussi un point ou deux qui sont intéressants et importants à retenir, c'est que En termes d'utilisation, d'exploitation du milieu marin, du milieu côtier, la mer Méditerranée, c'est une mer qui a une productivité qui est beaucoup plus faible que l'Atlantique. C'est lié au fait que c'est une mer fermée, qu'elle est moins riche en biomasse que l'Atlantique. Et puis aussi, c'est une mer qui, alors sauf là, près de Gibraltar, hein, mais ne connaît pas des marées d'une grande amplitude. Les marées sont très faibles en Méditerranée, et vous allez voir tout à l'heure que pour les périodes anciennes, bien, le fait de se trouver dans des endroits où il y a des marées de forte amplitude, bah, ça aide énormément pour aller collecter des mollusques en particulier. Alors c'est justement dans ces régions, eh bien, d'Espagne, du sud de l'Espagne, là sur cette, disons, l'Andalousie, la région de Murcia, et puis un petit peu en Italie et en Grèce, qu'on va quand même trouver des sites occupés par les hommes de Néandertal, où on voit la trace quand même de cette consommation de produits marins. Donc voilà une liste qui a été publiée il y a quelques années de sites où on a trouvé, alors, parfois, c'est juste quelques coquillages. Hein, parfois, c'est beaucoup plus, un petit peu plus riche et qu'on peut attribuer à ce paléolithique moyen. Alors, je vais commencer par deux sites qui ont fait beaucoup parler d'eux il y a une dizaine d'années, qui sont deux sites qui se trouvent à la base du rocher de Gibraltar. C'est la grotte de Goram et la grotte Vanguard. Alors le rocher de Gibraltar, c'est un endroit qui a une très grande importance historique pour la découverte des hommes de Néandertal. Vous savez que c'est en 1848, dans un autre site du rocher de Gibraltar, qui s'appelle Forbes Quarry, qu'on a découvert pour la première fois un crâne de Néandertalien adulte qui soit parvenu jusqu'à nous. Alors on l'a peut-être trouvé avant, mais personne n'en a jamais entendu parler, mais le Néandertal de Gibraltar, qui est conservé au British Museum, a été découvert avant même les restes de Feldhofer dans la vallée de Néandertal près de Düsseldorf. Alors, dans ces deux grottes de Gorhams et de Vanguard, mes collègues britanniques et espagnols ont décrit tout au long de la stratigraphie, donc qui couvre toute une période du Moustérien et puis d'ailleurs aussi du Paléolithique supérieur, eh bien, ont découvert des restes de la mélibranche, hein, de moules en fait, qui sont répartis dans cette stratigraphie, alors quand même pas avec une grande densité. Hein. On en a trouvé, mais on n'a pas trouvé des quantités. Ça n'a rien à voir avec le Cochrane Mudding que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis alors, on a trouvé aussi, dans la grotte Vanguard, un os de phoque moine qui porte des traces de boucherie, de décarnisation. Et donc, ces auteurs ont publié un article en 2008 dans les Proceedings de l'Académie des sciences des États-Unis pour dire, voilà, les hommes de Néandertal exploitaient le milieu marin, ils ramassaient des coquillages, des mollusques, et puis ils chassaient les phoques. Alors, cet article a été un petit peu critiqué par certains qui ont quand même fait valoir que c'est pas parce qu'on ramasse un phoque sur la plage une fois de temps en temps que l'on peut vraiment parler d'exploitation du milieu marin. Mais enfin, ce qui est vrai quand même, c'est qu'il semble que ce comportement, même s'il est opportuniste, a une certaine continuité. Alors, on a aussi des sites en Italie, je vous l'ai dit. En particulier, il y a un site qui n'est pas très loin de Rome, un morceau de côte près de Monte Circeo. Monte Circeo, aussi un site très important parce qu'on y a découvert un crâne de Néandertal. Il y a une grotte qui s'appelle la Grotta di Moccherini, où on trouve des coquillages et puis aussi des restes de tortues marines. Et donc, c'est aussi un de ces cas où on a des restes d'animaux marins associés à des industries du Paléolithique moyen. Alors, les auteurs qui ont étudié ce site, Marie Steiner et son époux Steve Kuhn, ont quand même souligné le fait que ça semble être une exploitation de basse intensité. Hein. Et on trouve dans ce site aussi d'ailleurs des restes d'ongulés qui sont exploités par le... peut-être sous forme de charogne par les Néandertaliens. En tout cas, c'est l'avis de ces auteurs. Alors, la seule exception que je connaisse à cet aspect quand même de faible intensité de l'exploitation du milieu marin par les Néandertaliens, c'est un site qui est en Espagne, à nouveau, près de Malaga, qui est la grotte de Barrondillo, où là, on a quand même des centaines et des centaines de fragments de moules qui se trouvent dans des niveaux qui ont été occupés par ces hommes de Néandertal. Alors, un point ou deux à souligner à propos de cette activité des Néandertaliens, encore une fois, peut-être de basse intensité, peut-être un peu opportuniste et sporadique, dans le milieu littoral. Il y a aussi quelque chose qui est assez curieux, qui mérite d'être souligné, c'est l'utilisation des coquilles pour fabriquer des outils. Et on a des outils... Alors, si vous regardez ça de loin, ça ressemble à des outils en pierre taillée, mais ce ne sont pas des outils en pierre taillée, ce sont des outils en coquillage taillé, et sont singulièrement ces gros lamellibranches du genre Calista, qui ont été traités exactement comme le silex pour fabriquer des racloirs qui ont été retouchés, et on trouve, ben, ma foi, on trouve ces sites un petit peu dans les mêmes endroits où on trouve les sites où il y a une exploitation des mollusques pour l'alimentation. Autre aspect de l'utilisation d'espèces marines, sont des coquillages qui ont été découverts dans le sud de l'Espagne, toujours la même région. Hein. Ceux-là sont près de Murcie, donc on est pas loin des sites que je vous montrais à Malaga, par exemple. Et sont des coquillages de Glycimeris qui ont une perforation et qu'on a daté récemment autour de 115 000 ans. Dans une grotte qui s'appelle la Cueva de los Aviones, près de Murcia. Et certains, enfin en tout cas un de mes collègues portugais, João Zilao, présente ces coquilles comme des objets à valeur symbolique, comme des ornements, des bijoux, si vous voulez. Certains portent des petites traces de pigments. Je dois dire quand même que je suis assez sceptique. Pourquoi ? Eh bien, parce que il est impossible de prouver que ces perforations sont intentionnelles. Je pense que d'ailleurs eux-mêmes n'y croient pas trop. Ces coquillages-là, si vous les ramassez sur une plage usée par la mer, vous avez de grandes chances d'en trouver une bonne quantité qui sont percées. Alors après, on peut discuter, savoir si là, il n'y a pas plus de coquillages percés ou si les trous n'ont pas une taille bien particulière. Mais enfin bref, toujours est-il que, surtout, moi, ce qui me frappe, c'est le fait qu'on connaisse un site moustérien où on a une poignée de coquillages percés naturellement. Je vous rappelle qu'on connaît en Europe des centaines de sites paléolithiques moyens dans lesquels on n'a jamais rien trouvé qui ressemble vraiment à quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose de très différent de ce qu'on va trouver avec des hommes modernes, et notamment en Afrique à la même époque. On a aussi, toujours dans le sud de l'Espagne, alors ce sont toujours les mêmes auteurs, hein, un coquillage qui vient d'une grotte, alors elle qui se trouve à 60 km de la mer, et c'est un pecten qui a un trou. Pareil, il y a peut-être des traces de colorant à l'intérieur. Le problème de ce pecten, c'est que son origine, je dirais, chronologique, même stratigraphique, n'est pas très très claire. Et le niveau dont qu'il l'a livré, c'est un niveau qui est daté de environ 37 500 ans, 37 400 ans en chronologie calibrée. Alors, apparemment en contexte moustérien, mais 37 500 ans, c'est une époque où on a déjà des hommes modernes en Europe. Donc, est-ce que ce sont vraiment les Néandertaliens qui l'ont laissé là ? Est-ce qu'il n'y avait pas des hommes modernes autour ? On ne sait pas trop. En tout cas, toujours est-il que, de mon point de vue, c'est très différent de ce qu'on a en Afrique à la même époque, autour de 100 000 ans, hein. On a de nombreux sites, ça c'est juste le Maroc, hein, mais on pourrait faire une carte comme ça pour l'Afrique de l'Est, pour l'Afrique du Sud, pour l'Algérie, la Tunisie, même d'ailleurs le Proche-Orient, Israël, et on a des centaines et des centaines de gastéropodes du genre Nassarius. Alors certains percés naturellement, certains percés intentionnellement. C'est toujours le même genre de coquillage, et là je pense qu'il n'y a aucune discussion pour les reconnaître comme des objets à valeur symbolique. Donc voilà, je vous présente par honnêteté intellectuelle les coquillages de l'Ossa Vionnaise, même si personnellement je ne suis pas un grand supporter de l'interprétation qui en est faite. Alors puisqu'on est en Afrique, restons-y. Et on va maintenant terminer avec Homo sapiens et essayer de voir quand et comment cet Homo sapiens se met à exploiter le milieu aquatique. C'est essentiellement en Afrique des gisements qui sont des gisements littoraux, donc près de la mer, qui montrent des traces d'exploitation du milieu marin. Alors au Maroc, on a un site, alors ce n'est pas le Maroc, c'est Ceuta, hein, mais ce n'est pas loin du Maroc quand même. Hein. Donc à Ceuta, on a un site avec du Middle Stone Age et qui est un site avec une stratigraphie qui couvre une période assez importante entre environ 250 000 et 70 000 ans avant le présent. Et là, on a des patelles et puis on a aussi des... Pour la première fois, enfin, on a une vertèbre ou deux de poissons qui ont été trouvés dans ce site-là. Donc, je vous rappelle que ce site de Benzou, c'est un site qui est à peine postérieur au site de Djebel Irhoud, qui, au Maroc, a livré les plus anciens Homo sapiens qu'on connaisse en Afrique. C'est surtout, en fait... En Afrique du Sud, que les recherches se sont poursuivies sur cette période-là. Donc, on a des gisements du Middle Stone Age, alors surtout, disons, de la deuxième moitié du Middle Stone Age, après 120 000 ans, où on trouve des accumulations de coquillages, des patelles, hein, souvent, qu'on peut ramasser sur les rochers. À ma connaissance, on n'a pas de poissons. On a un petit peu d'oiseaux marins. Alors, les manchots, c'est plus facile à attraper que les oiseaux qui volent. Mais on a un petit peu d'oiseaux marins dans ces sites-là. Et là encore, il y a un débat pour savoir s'il y a vraiment une espèce de point de rupture à un moment donné dans l'exploitation du milieu marin, ou si, dans le fond, on a, comme pour les hommes de Néandertal, une exploitation de bas niveau avant le développement vraiment des hommes modernes. Donc, il y a deux groupes de chercheurs qui s'opposent pas mal sur cette idée-là. Richard Klein... qui est un grand défenseur de l'idée qu'il y a une rupture majeure entre le Middle Stone Age, donc l'équivalent, si vous voulez, du poétique moyen européen, et le Later Stone Age, qui est l'équivalent de notre poétique supérieure, beaucoup travaillé sur, dans le fond, le genre de pression que les hommes exercent sur l'environnement en ramassant ces coquillages dans la zone de balancement des marées. Et ce qu'il a montré dans plusieurs sites, c'est que, disons, entre 120 000 ans et puis hier, hein, donc quand on traverse le Middle Stone Age et puis ensuite la limite entre le Middle Stone Age et le Later Stone Age, ce qu'on voit, c'est une diminution de taille de ces espèces qui sont exploitées par l'homme. Et lui, ce qu'il en déduit, c'est que, en fait, pendant le Middle Stone Age, bah, les hommes, dans le fond, n'exploitent pas avec beaucoup d'intensité ces espèces-là, parce que les hommes n'affectent pas tellement la taille des populations, enfin la taille des individus. Alors que dans le Later Stone Age, en ramassant les coquillages qui sont les plus appétissants, les plus gros, eh bien, ils finissent par ne laisser que les plus petits, et puis finalement, ils en viennent à récolter les petits aussi. Et on a, enfin, Klein a montré dans d'autres travaux qu'on a le même phénomène avec les tortues terrestres, par exemple. Hein, les tortues terrestres dont on trouve les restes dans le Middle Stone Age sont des tortues terrestres plus grosses que les tortues terrestres qu'on trouve dans le Later Stone Age, toujours pareil, hein, parce que dans le Later Stone Age, elles n'avaient pas le temps de devenir trop grosses avant d'être attrapées. Pareil pour d'autres proies, surtout des proies, qu'on peut simplement ramasser, hein, collecter, comme les tortues ou les coquillages. Alors, ce qu'on a opposé à Klein et Teresa Steele, qui est une de ses anciennes élèves, c'est le fait qu'en fait, peut-être que cette rupture qu'on observe autour de 50 000 ou quelque chose comme ça, 40 000, n'en est pas vraiment une, parce qu'en fait, on a quand même un manque de sites d'à peu près 20 000 ans, et que peut-être qu'on a affaire en fait à une transition beaucoup plus douce que ce que pensent ces auteurs. Alors, on en vient maintenant à un site qui a, lui, beaucoup plus fait parler de lui, qui est le site de Pinnacle Point, qui est vraiment dans la pointe sud de l'Afrique, à l'est du Cap. Donc, c'est cette grotte. Alors, c'est une grotte, vous voyez, avec une très très grande, à l'intérieur de la cavité, une très très grande dénivelée, hein, vous voyez, ces tranches représentent des mètres d'altitude. Et donc, tout au long de cette cavité, il y a une très très longue stratigraphie qui couvre plus de 120 000 ans, hein, ça va de 170 000 ans à 40 000 avant le présent. Donc, encore une fois, cette seconde moitié du Middle Stone Age et cette. Cette grotte a été récemment étudiée par une équipe qui est dirigée par Curtis Marehan. Et Curtis Marehan, qui est un archéozoologue américain, eh bien, s'est beaucoup intéressé à cette question de l'utilisation des ressources marines et singulièrement des coquillages à Pinnacle Point. Et il a écrit pas mal d'articles sur cette question. En particulier, il a écrit un article en 2014 dans le Journal of Human Evolution. Si c'est vraiment une question qui vous intéresse, il faut lire cet article, parce que c'est un article de synthèse où il présente toutes ces idées qui sont assez, à la fois cohérentes et audacieuses, on va dire, sur l'utilisation de ce milieu marin par des Homo sapiens, alors qu'ils commencent à ressembler beaucoup aux hommes actuels. Et Curtis Marehan voit dans l'exploitation du milieu marin qui est aujourd'hui juste en face de la grotte, eh bien vraiment l'origine de nombreux traits comportementaux des hommes, des Homo sapiens, et de ce qu'on appelle parfois en archéologie, alors c'est un concept qui est assez critiqué, mais le concept de modernité culturelle. En gros, ça recouvre tout un tas de techniques de fabrication d'armes et d'outils, l'utilisation d'armes de jet à grande distance. Donc, il y a toute une variété de pointes, parfois assez légères, géométriques, qui ont été fabriquées par ces hommes. Et puis surtout, ces productions d'objets non utilitaires, comme les fameux Nassarius percés que je vous ai montrés tout à l'heure, des gravures, donc une complexité sociale qui n'était pas présente jusque-là dans le Middle Stone Age d'Afrique et où on voit, pour beaucoup de chercheurs, l'origine, dans le fond, de la complexité moderne qu'on va trouver hors d'Afrique, puisque c'est hors d'Afrique que vont se répandre les descendants de ces Africains modernes, disons, qui ont 100 000 ans ou plus, ou un peu moins, puisqu'il y a eu plusieurs sorties d'Afrique. Alors, dans ce site de Pinnacle Point, qui est au centre des réflexions de Curtis Marianne, alors, il y a quand même beaucoup plus de coquillages marins que ce que l'on a trouvé dans d'autres sites du Middle Stone Age de cette époque-là. Vous voyez, tous ces points marrons que vous voyez là, ce sont des coquillages qui ont été marqués dans la stratigraphie. Alors bon, évidemment, il y a une superposition de pas mal de niveaux en profondeur, mais vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de coquillages. Encore une fois, on n'est quand même pas dans des accumulations comparables à celles du mésolithique que je vous ai montré tout à l'heure. Mais enfin, il y a des coquillages. Pour vous donner une idée, voilà, dans un plan d'un niveau de la grotte Vanguard, vous vous souvenez, cette grotte près de Gibraltar où on a trouvé des coquillages dont on pense qu'ils ont été exploités par les Néandertaliens. C'est la grotte où il y a cette phalange de phoques, moines. Et voilà une surface équivalente à Pinnacle Point où on a marqué les coquillages. Vous voyez qu'on est dans un ordre de grandeur complètement différent. Donc il y a une exploitation beaucoup plus grande des coquillages. Et donc Curtis Marianne, lui, voit vraiment un contraste très très marqué entre le monde des hommes modernes en Afrique et le monde des hommes de Néandertal en Europe. Et il pense que autour de cette exploitation du niveau marin se joue toute l'élaboration de la complexité, dans le fond, des sociétés modernes de chasseurs-cueilleurs. Et je reviens à ces notions que j'évoquais au début de mon exposé. Le fait que la productivité du milieu côtier permet d'avoir une densité de population plus importante, et puis avec cette densité plus forte, eh bien, tout un tas de conséquences, en particulier autour de la territorialité des groupes, de la complexité sociale des groupes et de leur comportement, des échanges, des conflits, une technologie qui s'emballe un peu avec la production de toutes ces armes de chasse, mais peut-être pas que de chasse, après tout, qui sont produites par ces hommes. Donc voilà, lui pense que c'est vraiment là qu'on trouve, dans l'exploitation du milieu marin, l'origine de beaucoup de comportements des chasseurs-cueilleurs modernes. Et il a beaucoup insisté dans ses travaux sur le fait que, dans le fond, la question, c'est pourquoi on assiste à cette évolution en Afrique, dans les zones côtières, et pourquoi, avec les hommes de Néandertal, ça se produit pas. Alors, on peut penser que c'est lié à des conditions de milieu, le fait que, vous vous souvenez que la Méditerranée, c'est un milieu qui est moins riche, moins productif que les océans, comme l'océan Atlantique ou l'océan Indien. Évidemment, ça pose quand même la question de... Il y a des Néandertaliens qui vivent pas seulement au bord, qui ont vécu pas seulement au bord de la Méditerranée. On en a au Portugal, hein, on en a ailleurs en Europe. Alors bon, c'est vrai que il y a cette question de la submersion des sites qui sont des sites côtiers en Europe. Ensuite, il y a le fait que dans la Méditerranée, eh bien, on a des marées qui ont une amplitude beaucoup plus faible, ce qui ne facilite pas vraiment la collecte de ces coquillages qu'on trouve dans ces sites comme Pinnacle Point. Et donc, Curtis Marianne s'est beaucoup intéressé à la question de la collecte des coquillages, quelles espèces de coquillages on peut collecter en fonction de la profondeur à laquelle ils vivent. Et donc, en gros, ses études sur Pinnacle Point montrent surtout que, en fait, les hommes ont su tirer avantage des très fortes marées qui se produisent à certains moments de l'année, et même du cycle, d'un cycle beaucoup plus rapide. Et en fait, cette côte qui se trouve en face de Pinnacle Point, si on y va aujourd'hui pour ramasser des coquillages, eh bien on se rend vite assez compte que c'est quand même un exercice qui peut être assez dangereux. Pourquoi ? Eh bien parce que justement, il y a des marées qui peuvent être d'assez grande amplitude. Et donc, il y a des zones dans lesquelles on trouve certaines espèces de coquillages qui sont plus ou moins désirables pour la consommation, mais qui aussi présentent des niveaux de danger plus ou moins grands. Évidemment, si on va dans les endroits où qui sont très profonds, je vous rappelle qu'en Afrique du Sud, il y a des requins blancs qui patrouillent pas très loin du gisement là. En fait, quand on analyse les coquillages trouvés à Pinnacle Point, ce qu'on voit, c'est que c'est surtout pendant les épisodes de marée basse de grande amplitude que les hommes sont venus chercher des coquillages, parce qu'ils sont allés ramasser des espèces qui ne sont accessibles que pendant ces marées basses de très grande amplitude. Et donc, d'après lui, ce qu'il met en avant, en tout cas dans cette étude de 2014, c'est le fait que ces hommes modernes, ils exploitent ce milieu marin d'une façon assez stratégique, en tirant profit de ces épisodes de marée basse de grande amplitude, et que cette exploitation, elle fait partie d'un cycle d'exploitation d'autres ressources, y compris des ressources continentales, et que, dans le fond, c'est la capacité des hommes à prévoir l'accessibilité de ces ressources qui fait leur efficacité, hein, en termes de collecteurs, de chasseurs-collecteurs. Et donc, c'est l'insertion de ces épisodes de ressources marines au milieu d'épisodes pendant lesquels ils exploitent le milieu continental, eh bien, qui explique la densité de l'occupation humaine dans ce site. Et en particulier, ce qu'il met en avant, c'est le fait que pour vraiment pouvoir exploiter, à moins d'être tout le temps là à attendre que la mer se retire, pour arriver à exploiter ces espèces-là de mollusques, eh bien, il faut, dans le fond, avoir une notion de l'influence de la Lune sur le cycle des marées. Et que, dans le fond, la grande différence, peut-être, d'après lui, encore une fois, entre ces hommes modernes qui vivent il y a 100 000 ans à Pinnacle Point et d'autres formes archaïques qui exploitent le milieu marin de façon beaucoup plus opportuniste, un peu aléatoire, eh bien, c'est que ces hommes-là, ils ont compris que c'est avec la pleine Lune et avec la nouvelle Lune qu'on va avoir les marées basses les plus importantes, et que c'est à ce moment-là qu'il faut venir pour récolter ces espèces-là, et que le reste du temps, il vaut mieux aller chasser autre chose sur le continent. Et donc, c'est presque un aspect, c'est un aspect de complexité cognitive, en fait, qui est mis en avant par Marianne pour expliquer cette densité des vestiges dans cette région-là. Et encore une fois, il voit une espèce de feedback entre cette complexité et puis le succès, si je peux dire, en termes économiques, et le progrès en termes de complexité du comportement. Alors, quand les hommes modernes sortent d'Afrique, là, on va commencer à trouver, alors, dans le paléolithique supérieur d'Europe, l'exploitation non seulement du milieu côtier littoral, mais on va aussi trouver dans les sites du paléolithique supérieur des vestiges de poissons. C'est la première fois que je vous parle de poissons dans cette histoire. Eh bien, de poissons qui viennent du milieu fluvial. Et j'ai pris un exemple qui est le site d'Ohlefels dans le sud-ouest de l'Allemagne, hein, on est dans le Bade Württemberg, où vous voyez que les hommes pêchent toutes sortes de poissons. Alors évidemment, les salmonidés, on peut assez facilement les attraper en profitant de leur cycle de reproduction quand ils remontent les rivières. Mais on a, dans le Paléolithique supérieur, on a des sites où on a trouvé des objets ou des vestiges qui montrent qu'on a probablement tout un attirail qui permet d'acquérir ces poissons, donc des armes pour les pêcher, des filets, des choses comme ça. Et l'idée qui s'est fait jour, c'est que dans le fond, avec l'arrivée des hommes modernes en Europe, avec le Paléolithique supérieur, on assiste à une grande diversification des ressources exploitées par rapport à ce qui était exploité par les Néandertals auparavant. Dans le fond, les hommes de Néandertal, ils étaient des chasseurs très efficaces pour acquérir des mammifères de grande taille ou de taille moyenne, avec probablement un régime quand même très carnivore. Avec les hommes modernes, on aurait, en plus de ce spectre de gibier, d'ongulés exploités, eh bien, on aurait d'autres ressources qui seraient mises à profit, et en particulier toutes sortes de petits animaux, dont je parlais de filets tout à l'heure, donc qui permettent d'attraper des oiseaux, des poissons, des tas de choses comme ça. Alors, c'est un débat qui n'est pas entièrement clos, si je peux dire. Ce qui est vrai, c'est que quand on regarde les vestiges de ces animaux-là, on les trouve de façon plus abondante dans les sites du Paléolithique supérieur que dans les sites plus anciens. Maintenant, en termes d'effets dans l'alimentation, là, c'est un petit peu plus débattu. Évidemment, ce qu'on soupçonne, c'est que cette capacité à varier en quelque sorte les ressources permet une démographie plus forte. Hein. Donc, ça expliquerait que les hommes modernes, dans le fond, aient vu leur nombre s'accroître. Et puis aussi une forme de sécurité alimentaire, parce que plus on a des ressources diversifiées, et plus on a de chances de survivre quand il y a la disparition d'un gibier ou la raréfaction d'un gibier habituel, et qui est évidemment toujours problématique quand on est trop spécialisé dans ces sources d'alimentation. Alors, un des éléments qui alimentent ce débat sont des recherches, encore une fois, isotopiques. Vous vous souvenez que si les isotopes du carbone, enfin, la proportion d'isotope 13 du carbone varie en fonction des chaînes trophiques qui s'enracinent dans des sources végétales différentes, eh bien, on a une variation de l'isotope de l'azote 15 dans, en particulier, le collagène des fossiles qu'on peut étudier et qui nous indique où est-ce qu'on se trouve dans la chaîne trophique, plus ou moins haut, et donc comment on peut identifier des formes plus ou moins carnivores. Et quand on compare ces variations des isotopes, de l'isotope 15 du delta, donc de l'azote 15, dans des vestiges animaux de différentes espèces, on se rend compte que, effectivement, on a des carnivores au-dessus des herbivores qui eux-mêmes sont au-dessus des plantes. Et on a, dans le milieu aquatique, certaines espèces qui ont des valeurs en azote 15 qui sont extrêmement élevées. Et pourquoi ? Eh bien, parce que l'azote 15, dans le fond, sa proportion augmente à chaque fois qu'on passe d'un niveau trophique au niveau suivant, c'est-à-dire dans une chaîne de prédateurs à consommateurs, et dans le milieu marin, ou dans le milieu aquatique en général, d'ailleurs pas seulement marin, eh bien, ces chaînes trophiques sont beaucoup plus longues parce qu'on a des petits poissons qui mangent des poissons encore plus petits, des moyens poissons qui mangent les petits poissons, des gros poissons, les moyens poissons, etc., etc. Et même les mammifères et les prédateurs marins, il y a aussi tout une chaîne de prédateurs qui se... Les orques mangent des phoques, hein. Donc, il y a beaucoup de, beaucoup de prédateurs, si je peux dire, empilés les uns au-dessus des autres. Et donc, on a des valeurs très élevées du carbone 15, de l'azote 15 pour ces super prédateurs. Et quand on regarde les valeurs de l'azote 15 chez les hommes, et qu'on compare les valeurs qu'on a mesurées chez des Néandertaliens qui sont représentés ici par des petits carrés blancs, vous souvenez que je vous ai présenté les Néandertaliens quand même comme des super carnivores. Hein. On a de bonnes raisons de penser qu'effectivement, ils mangeaient quand même pas mal de viande. Eh bien, vous voyez que, surtout au début du Paléolithique supérieur, on a des hommes modernes en Europe qui sont représentés par ces ronds gris qui ont des valeurs encore plus hautes en azote 15. Et donc, mon collègue Michael Richards interprète ça comme, en fait, l'ajout à cette alimentation carnée d'une part aquatique, ces fameux poissons que je vous montrais, ces saumons, ces animaux qui sont capturés dans le milieu aquatique par les hommes et qui poussent les valeurs de l'azote 15 encore plus haut. Alors, c'est quelque chose qui est débattu. Pourquoi ? Parce que l'environnement, les changements environnementaux, les changements climatiques ont aussi une influence sur ces valeurs isotopiques. Et donc, comme on a affaire à des groupes qui ne sont pas du même âge géologique, il y a peut-être un effet là qui explique ce décalage. La façon dont, je pense, on va résoudre ce problème, c'est par l'utilisation d'autres isotopes. Et je vous ai déjà parlé, je crois, des travaux de Clervia Jaouen, qui travaille sur l'isotope 66 du zinc et qui a montré dans plusieurs publications déjà que non seulement les valeurs de cet isotope du zinc différenciaient assez bien les herbivores terrestres des carnivores terrestres, mais que là encore, comme pour l'azote, eh bien on a des animaux aquatiques et surtout les prédateurs des animaux aquatiques qui sont fortement décalés vers des valeurs très faibles de cet isotope 66 du zinc. Alors, pourquoi on s'intéresse particulièrement au zinc ? Eh bien, parce que c'est un métal. Il se fixe dans les mailles dentaires au cours du développement et normalement, il se conserve pour toujours. Enfin, il se conserve aussi longtemps que la dent et les mailles dentaires se conserve, alors que le problème de l'azote, c'est que c'est un élément qui est contenu dans des molécules organiques comme le collagène, par exemple, et ces molécules organiques, avec le temps, disparaissent, disons, au-delà de 50 000 ans, 100 000 ans, ça dépend un peu de l'environnement, on a de moins en moins de chances de le trouver. Et donc, ces travaux qui portent pour l'instant sur essentiellement sur des espèces actuelles. Mais on a un étudiant en thèse qui travaille sur du matériel fossile et qui valide ces modèles sur des espèces fossiles. Eh bien, ces résultats obtenus sur le zinc ouvrent des perspectives tout à fait formidables. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de la résolution de notre problème, est-ce que les hommes du Paléolithique supérieur mangent plus de poissons que les Néandertaliens ? Eh bien, avec ce genre de technique, on va pouvoir revisiter tous les groupes dont je vous ai parlé aujourd'hui, les Néandertaliens, les Homo sapiens anciens qui vivent à Pinnacle Point ou ailleurs en Afrique du Sud, les Homo erectus, et même au-delà, et analyser le régime alimentaire avec une technique isotopique dans des groupes où jusqu'à présent eh bien, on n'avait pas la possibilité de le faire avec ces méthodes-là. Alors ça c'est juste une photo pour vous montrer qu'on arrive à mesurer ces isotopes de façon presque non destructive, hein, c'est-à-dire qu'on utilise un laser. Là c'est un laser femtoseconde qui permet de faire de tout petits prélèvements qui sont absolument microscopiques dans de l'émail dentaire, l'envoyer dans un spectromètre de masse et de nous donner des mesures de ces éléments. Donc ça, c'est une recherche. Clervia Jaouen a obtenu, il y a quelques semaines, un financement de l'ERC, qui est l'European Science Foundation, European Research Council, excusez-moi, et qui va donc, dans les années qui viennent, poursuivre ses travaux sur tous ces groupes dont je vous parle. Voilà, pour terminer, je voulais vous remontrer à nouveau un Kyoken Mudding pour vous dire que, avec la fin des temps glaciaires, on assiste à une explosion de l'exploitation de ces ressources aquatiques. Et donc, on parle d'intensification. Hein. L'intensification, ça veut dire comment les hommes arrivent à, j'allais dire, à presser le citron encore plus fort qu'ils ne le faisaient avant. Et je vous montre ça simplement pour revenir sur cette idée que, en fait, dans tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui, eh bien, plutôt que des ruptures absolument très marquées, ce qu'il faut voir, eh bien, c'est une évolution avec un intérêt pour ces ressources aquatiques qui apparaît très très tôt chez les hommes il y a 2 millions d'années, qui va se maintenir très longtemps, qui va se satisfaire de pratiques qui sont des pratiques un petit peu, opportunistes. Hein. Vous avez vu ces Homo erectus qui patrouillent le long des berges, des grands lacs est-africains en espérant trouver quelque chose qui est bon à manger. Peut-être c'est ce que faisaient les hommes de Néandertal qui ont ramassé ce phoque moine près de Gibraltar. Mais avec notre espèce, on observe quelque chose qui est beaucoup plus systématique. Vous avez vu à Pinnacle Point ces hommes qui viennent à certaines époques du mois quand la Lune est pleine, quand elle est nouvelle, pour profiter d'une marée pour ramasser certaines espèces de mollusques sans trop courir de danger. Et puis, avec le paléolithique supérieur, une exploitation qui se diversifie énormément, qui commence à inclure du poisson. Et puis, finalement, au mésolithique, là, on a des groupes qui sont vraiment spécialisés dans l'exploitation de ce milieu aquatique, qui sont capables de ramasser des quantités énormes de ces coquillages, d'ailleurs qui affectent ces populations, hein, de mollusques, et qui, alors eux, sont aussi capables de pêcher et d'acquérir toutes sortes d'animaux marins, poissons et mammifères marins. Je vous remercie pour votre attention.